Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Tome 2. Chapitre 25. Comment l'auxiliaire de Ralph se mit à l'œuvre et comment il réussit. C'était par une soirée triste, sombre, humide, une soirée d'automne. Dans une chambre au dernier étage d'une méchante baraque, située au fond d'une rue obscure, ou plutôt d'une cour, près de Lambès, était assis, tout seul, un borgne étrangement accoutré. Son habillement grotesque cachait-il un travestissement ou dénotait-il sa misère? Quoi qu'il en soit, il était enveloppé d'une large redingote, dont les bras étaient bien deux fois aussi longs que les siens, et dont l'ampleur, de haut en bas, aurait suffi grandement pour l'ensevelir tout entier de la tête aux pieds, sans qu'on eût besoin de tirer la vieille étoffe crasseuse dont elle était faite. Sous ce déguisement, et dans un quartier si éloigné de ses habitudes et de ses occupations, si pauvre et si peu respectable, l'œil de Madame Squeers elle-même aurait eu peine à reconnaître son seigneur et maître. Quelque pénétrante que l'on pût supposer la sagacité de cette tendre épouse, illuminée par ses sentiments d'affection conjugale. C'était pourtant bien le seigneur et maître de Madame Squeers. Il avait l'air d'assez mauvaise humeur, son seigneur et maître, quoiqu'il puisât quelque consolation dans une bouteille placée devant lui sur la table. Il jetait autour de la chambre un regard où se peignait, avec un profond dégoût pour les objets dont il était entouré, le souvenir et le regret impatient de quelques lieux éloignés et de quelques personnes absentes. Le fait est qu'il n'y avait pas grand agrément, ni dans la chambre sur laquelle errait la vue de M. Squeers avec si peu de plaisir, ni dans la ruelle étroite dont il eut la perspective s'il avait tenté de s'approcher de la fenêtre. La mansarde qu'il occupait était nue et laide, le lit et les quelques meubles de première nécessité qu'elle renfermait étaient des plus vulgaires, dans un état caduque et d'une apparence moins que séduisante. La ruelle était sale, boueuse et déserte. Comme elle n'avait qu'une issue, elle n'était jamais guère traversée que par ses rares habitants, et comme la soirée n'était pas engageante pour sortir, on y voyait d'autres signes de vie que la chétive lueur de quelques chandelles fumeuses derrière les vitres noircies. On n'y entendait que le clapotage de la pluie, ou de temps en temps le lourd battement de quelques portes qui craquaient en se fermant. M. Squeers continuait de promener autour de lui son regard mélancolique et d'écouter en silence ses bruits monotones, variés seulement par le frôlement de sa grande redingote, quand il en tirait de temps à autre son bras pour l'allonger vers la bouteille et la porter à ses lèvres. Monsieur Squeers ne fit pas autre chose pendant assez longtemps, jusqu'à ce que le redoublement des ténèbres l'avertît qu'il était temps de moucher la chandelle. Un peu réveillé par cet exercice, il leva les yeux vers le plafond et les fixant sur des figures bizarres et fantastiques qui avaient dessiné la pluie et l'humidité pénétrant à travers la toiture, il s'adressa lui-même le monologue que suivit. « C'est bon, voilà qui est joli !» Très jolie, ma foi. Voilà combien de semaines? 6 au moins, que je suis ici à pourchasser cette méchante, vieille, petite, voleuse. Monsieur Squeers eut du mal à se décider à lâcher cette épithète. Et pendant ce temps-là, Dodboys Hall va à la diable. Voilà ce que c'est que de se faire attraper par ce rusé matois de Nickleby. Vous ne savez jamais où vous en êtes avec lui. Et si vous hasardez un sou, il vous fait bientôt perdre un écu. » Cet apophtegme financier rappela naturellement à M. Squeers qu'il s'agissait pour lui d'un millier d'écus. Pensée divertissante qui détendit les plis de son front et lui fit lever le coude pour déguster la bouteille d'un air plus enchanté que jamais. Le monologue reprend. Je n'ai pas encore vu ni connu de si tranchante, ni de lame patiente comme ce vieux Nickleby. Il est impossible de s'en faire une idée. C'est une vraie lime sourde, ce Nickleby. Il fallait le voir tourner, virer, trotter, creuser jour par jour son sillon, sa sape ou sa mine, pour aboutir au repère qui cachait cette précieuse Madame Peg Silderskew et me préparer chemin. Comme il rampait, comme il glissait, comme il s'insinuait, le vieil aspic au trait hideux, à l'œil vitreux, au sang de glace. Ah ! Voilà un homme qui aurait fait Florès dans notre partie. Mais bah, c'est pour lui un trop petit théâtre. Son génie aurait éclaté comme une bombe dans cette étroite prison, et en dépit de tous les obstacles, il aurait tout brisé sur ses pas, jusqu'à ce qu'il se fût élevé à lui-même un monument de... Allons, c'est bon, gardons le reste pour une meilleure occasion. L'éloquence de M. Squeers fit ici une halte, nouvelle accolade à la bouteille, après quoi il tira de sa poche une lettre graisseuse dont il se mit à lire par cœur le contenu comme un homme qui l'a déjà étudié bien des fois et qui ne veut que s'en rafraîchir la mémoire. À défaut d'autres amusements plus agréables. Les cochons se portent bien, lut Monsieur Squeers. Les vaches se portent bien et les pensionnaires boulottent. Le jeune Sprouter cligne de l'œil.
Vraiment ?
Je vais le faire cligner moi à mon retour. Kobe continue de renifler en mangeant à dîner et répond que le bouillis est si dur que ça le fait renifler.
C'est parfait. « Kobe, je vous ferai bien renifler sans bouillie. »
Pitcher a encore eu une fièvre typhoïde.
« Voyez-vous ça ?»
Ses parents sont venus le retirer et il est mort chez eux le lendemain.
« Je suis sûr que c'était pour me faire enrager. Toujours le même système. Il fallait que ce fût ce gamin-là pour mourir justement à l'expiration du trimestre et m'emporter tout mon profit. Ah, c'est pousser la rancune bien loin. »
Palmer Cadet a dit qu'il voulait être au ciel.
Ma parole, je ne sais que faire de ce garnement, il a toujours comme cela des idées épouvantables. Une autre fois, n'a-t-il pas été jusqu'à dire qu'il voudrait bien être un âne, parce qu'au moins, il n'aura pas un père qui ne l'aime pas. Comprend-on une pareille horreur de la part d'un enfant de 6 ans ?
Monsieur Squeers fut tellement ému de voir cet exemple de dureté de cœur dans un enfant d'un âge encore si tendre, que dans sa colère, il laissa là l'épître de sa dame pour chercher des consolations dans un autre ordre d'idées.
« C'est bien long 6 semaines pour rester à Londres tout ce temps-là, » dit-il. « Et ne voilà-t-il pas un joli bijou de logement pour y demeurer seulement 8 jours ? Après cela, 2 500 francs, cela fait 5 pensionnaires. Et encore 5 pensionnaires mettent une année entière à payer 2 500 francs. » Sans compter qu'il faut en déduire la nourriture et l'entretien. Et puis, le temps que je passe ici ne me cause aucun dommage.
La pension court toujours comme si j'étais là. Et je peux m'en fier à Madame Squeers pour les bien tenir. Je n'aurai à regagner le temps perdu que pour une misère. Un petit arriéré de coups de verge à liquider pour me mettre au courant, mais il ne me faudra pas plus de 2 jours pour acquitter mes dettes. Et d'ailleurs... 2 500 francs valent bien un petit surcroît de besogne. Mais voici bientôt le moment d'aller trouver la bonne femme. D'après ce qu'elle m'a dit hier au soir, j'ai lieu de croire que c'est aujourd'hui que nous allons terminer, ou jamais. Commençons par prendre encore un petit verre pour porter une santé à mon succès et me mettre de belle humeur. Madame Squeers m'a bien aimée. À votre santé.
Et de son œil unique, il salua selon l'usage la dame qui était censée lui faire raison de sa santé comme si elle lui était là. Dans son enthousiasme, sans doute, il s'oublia jusqu'à se verser une rasade à plein bord et à la vider d'un trait. Or, comme le liquide était un spiritueux actif et qu'il n'avait pas épargné ses visites à la bouteille, il n'était pas surprenant qu'il se trouvât cette fois d'une gaieté parfaite.
l'esprit monté à la hauteur de sa mission. Sa mission ne fut pas longtemps un mystère. En effet, après avoir fait quelques tours dans la chambre pour se dégourdir les jambes, il prit la bouteille sous son bras, le verre à sa main, souffla la chandelle, ce qui annonçait qu'il s'attendait à ne pas revenir tout de suite, se glissa à la dérobée vers l'escalier, grimpa à pas de loup jusqu'à une porte vis-à-vis de sa chambre et y tapa doucement trois petits coups.
« Qu'ai-je besoin de frapper à la porte ? » dit-il par réflexion, « puisqu'elle n'entend pas. Je ne suppose pas que je la surprenne indiscrètement à faire quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela me fait ?»
Sans autre préambule, M. Squeers poussa le loquet et, passant la tête dans un grenier bien autrement déplorable que celui qu'il venait de quitter, s'assura qu'il n'y avait personne que la vieille, qui se chauffait à un feu misérable, car, s'il en était encore en automne, le temps était froid comme en hiver. Il entra et lui donna une petite tape sur l'épaule.
« Eh bien, Mass Leader !» dit M. Squeers d'un ton jovial.
« Est-ce vous ?»
demanda Peg.
« Certainement que c'est moi. Moi, première personne singulier, nominatif, s'accordant avec le verbe « c'est » et gouverné par Squeers, sous-entendu, comme le cheval, la rose. Exception, quand le H est aspiré, le, la, perdent la voyelle finale, comme dans « l'âne »,« l'amour »,
répondit Monsieur Squeers, citant au hasard des bribes de grammaire. Puis, abaissant la voix à son ton ordinaire, pour n'être pas entendu de Marguerite,
« Dans tous les cas, c'est moi ou ce n'est pas moi, vieille sorcière, tu n'en es pas plus avancée. »
En même temps, il prit un tabouret, le mit auprès du feu et s'assit dessus en face d'elle, plaça le verre sur le carreau, la bouteille au milieu, et se mit à recommencer d'une voix de stentor.
« Eh bien, Mass Leader !»«
Ah, à la bonne heure, je vous entends, vous !»
dit Madame Peg de l'air le plus gracieux.
« Vous voyez, je ne vous ai pas manqué de parole. »«
C'est ce qu'on disait dans mon pays, »
répondit Peg avec assurance.
« Mais moi, je trouve l'huile meilleure. »«
Meilleure que quoi ?»
dit Squeers d'une voix à faire trembler les murailles, en ajoutant à voix basse un petit supplément de compliments.
« Non !» dit Peg. « Certainement non !»«
Jamais je n'ai vu de monstre pareil !»
marmotta Squeers de l'air le plus aimable du monde, pendant que Peg, l'œil fixé sur ses traits, riait à gorge déployée comme une femme enchantée de l'à-propos de ses réponses.
« Voyez-vous cela ? C'est une bouteille !»«
Je vois bien !»«
Et voyez-vous ceci ? C'est un verre !»
Peg ne s'y trompa pas non plus.
« Regardez bien !»
reprit Squeers, accompagnant ses remarques de gestes démonstratifs.
« Je remplis le verre avec la bouteille, je vous dis « à votre santé » et je le vide. Après cela, j'y passe gentiment une petite goutte pour le rincer, je la jette à regret dans le feu. Là, nous allons mettre le feu à la cheminée. Je le remplis de nouveau et je vous le passe.
« À la vôtre !»
dit Peg.
Elle entend cela, c'est déjà quelque chose.
Murmura Squeers en admirant avec quelle vivacité Madame Silderscrew sablait son verre de brandy au risque d'étouffer après dans ses affreux hoquets.
« Voyons, à présent, causons un peu. Comment va le rhumatisme ?»
Madame Silderscrew, avec force œillade, force sourire, force regard expressif, qui tout également trahissait son goût vif pour Monsieur Squeers, sa personne, ses manières, sa conversation, lui répondit que son rhumatisme allait mieux. Devenu de plus en plus facétieux grâce à la bouteille, M. Squeers continua ses plaisanteries.
« Et d'où viennent les rhumatismes ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi a-t-on des rhumatismes, hein ?»
Madame Silderscrew répondit en femme d'esprit qu'elle ne le savait pas, mais que c'était peut-être parce qu'on ne pouvait pas s'en empêcher.
La rougeole, les rhumatismes, la coqueluche, la toux, la fièvre, le limbago, répondit-il. Tout cela, c'est de la philosophie, rien d'autre chose. Les corps célestes, c'est de la philosophie. Les corps terrestres, philosophie. S'il y a un clou qui lâche dans quelque corps céleste, c'est de la philosophie.
s'il y a un clou qui lâche dans un corps terrestre, toujours de la philosophie. Ou bien, il peut se faire quelquefois qu'il y ait un peu de métaphysique, mais ce n'est pas commun. La philosophie est mon talisman, ma selle à tous chevaux. Qu'un parent me fasse une question sur quelque matière classique, commerciale ou mathématique, « Monsieur, lui dis-je gravement, permettez-moi d'abord de vous demander si vous êtes philosophe. »« Non, monsieur Squeers, dit-il, je ne le suis pas. »« En ce cas, monsieur, j'en suis bien fâché, mais je ne pourrai pas vous expliquer cela. » Naturellement, le bon parent s'en va avec le regret de n'être point philosophe et la conviction, comme de juste, que je le suis. Tout cela était débité d'un air de profondeur avinée et de gravité comique. Monsieur Squeers tenait son œil braqué sur Madame Silderscrew, qui n'avait garde d'entendre un mot. Il termina ses réflexions en se servant à la bouteille et la passa à Marguerite, qui fit l'honneur à cette politesse. « Voilà le moment de mettre le feu aux poudres !» se dit Monsieur Squeers. « Savez-vous, ma Silder, que vous êtes rajeunie de 20 ans ?» Le compliment ne fut pas désagréable à Madame Silderscrew, qui en rit de bon cœur, sans que sa modestie lui permît cependant d'y donner un assentiment verbal. « Je dis 20 ans de moins que la première fois que je vins me présenter chez vous, vous rappelez-vous »«
Je crois bien, vous m'avez fait assez grand-peur. »«
Vraiment ?» dit Squeers. « En effet, c'était assez drôle de voir un étranger s'introduire chez soi sans autre recommandation que de vous dire qu'il sait vos affaires, votre nom, pourquoi vous vivez si retiré, ce que vous avez chipé. » « À qui vous l'avez chippé, n'est-ce pas ?»
Peg reconnut la vérité de cette réflexion par un signe de tête bien prononcé. « C'est que vous voyez, moi je suis au courant de tout ce qui se fait dans ce genre-là, » continua Squeers. « Il ne se passe rien comme cela que je n'y sois pour quelque chose. Je suis une espèce d'homme de loi de première qualité et connu pour mon habileté. Je suis l'ami intime et le conseiller de confiance de presque tous les hommes, » les femmes, les enfants qui se trouvent dans l'embarras pour avoir les doigts trop agiles. Monsieur Squeers allait défiler le chapelet de tous ses talents et de ses mérites variés, car c'était concerté entre lui et Ralph, et d'ailleurs il puisait dans la bouteille un flot d'éloquence intarissable, lorsque Madame Silderscrew l'interrompit pour lui crier à tue-tête, en se croisant les bras et en remuant la tête comme une pagode.
Il ne s'est donc pas seulement marié. Ha ! Il n'est pas marié ?
Non, répliqua Squeers. Je peux vous en répondre ?
Et il est survenu un jeune godelureau qui lui a enlevé sa femme à son nez et à sa barbe.
Comme vous dites, et ce n'est pas tout. On m'a assuré qu'il l'a rossé comme il faut, qu'il a cassé les vitres et lui a fait avaler ses rubans de mariée jusqu'à l'étrangler.
« Comptez-moi donc encore tout ça !»
cria Marguerite, dont la malice prenait un singulier plaisir à se faire répéter toujours la déconvenue de son ancien bourgeois, et dont les yeux pétillaient d'une joie qui ne faisait qu'ajouter à sa laideur hideuse.
« Je veux encore en entendre les détails, en commençant par le commencement, comme si vous ne m'aviez jamais rien dit. N'oubliez pas un mot, et ceci et cela, tout !» en recommençant au moment même où il est allé le matin à la maison de sa belle.
Monsieur Squeers, tout en gratifiant fréquemment Madame Silderscrew de la liqueur enchanteresse dont il prenait lui-même abondamment sa part pour soutenir les efforts de sa voix, eut la complaisance de lui décrire par le menu la déconfiture d'Arthur Greed avec tous les enjolivements que lui suggéra en passant son imagination inventive, dont la fertilité avait séduit tout d'abord la vieille dès leur première entrevue. Madame Silderscrew, en l'écoutant, était dans l'extase du bonheur. Elle roulait sa tête dans tous les sens, elle levait ses épaules décharnées, elle ridait sa face cadavéreuse, avec des variations d'abominable laideur si multiples et si compliquées que Monsieur Squeers lui-même ne pouvait pas revenir de son étonnement, égal à son dégoût.
« Ah, le vieux bouc, le vieux traître » disait-elle. « M'a-t-il floué avec ses fourberies et ses promesses trompeuses ? Mais c'est égal, il a trouvé à qui parler. je suis femme à lui rendre la monnaie de sa pièce.
Mieux que ça, Cildur, reprit Squeers. Vous auriez pu être quitte s'il s'était marié, mais avec son désappointement, par-dessus le marché, c'est vous qui avez du retour, et fièrement. À propos, cela me rappelle, ajouta-t-il en lui passant le verre, que si vous désirez avoir mon opinion sur ces actes, pour savoir ce que vous ferez bien de garder et ce que vous ferez bien de jeter au feu, voilà le moment, Cildur.
Oh, il n'y a pas de presse, dit Peg
en clignant de l'œil d'un air malin.
Ah, très bien, moi je n'y tiens pas, hein. Ce que j'en disais, c'est que vous me l'aviez demandé, vous savez. Vous pensez bien que je ne vous réclamerai pas un sou pour cela, entre amis. Mais, comme de raison, vous savez mieux que personne ce que vous avez à faire. Seulement, il faut que vous ayez un fameux toupet, voilà tout.
Comment ? Un toupet ?
Dit Marguerite. Dame, je veux dire que, si c'était moi, je n'oserais pas garder des papiers qui peuvent me faire prendre. Je ne les laisserais pas traîner là, quand je pourrais en faire de l'argent. Ce qui ne pourrait me servir de rien, je m'en déferais. Les autres, je les serrerais en sûreté quelque part, voilà tout. Mais après cela, chacun fait mieux que personne ce qu'il veut faire. Tout ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne ferais pas comme ça.
Allons, tenez, dit Marguerite. Il faut que vous les regardiez.
Moi, je n'ai pas besoin d'y regarder, répliqua Squeers, affectant d'être contrarié. Vous avez l'air de me faire une grâce. Vous n'avez qu'à les montrer à quelqu'un d'autre et à lui demander son avis.
Monsieur Squeers aurait peut-être continué plus longtemps la farce si Madame Silderscoo, dans son empressement à rentrer dans l'honneur de ses bonnes grâces, ne s'était pas mise à lui témoigner une affection si inquiétante qu'il eut peur un moment de se voir étouffé par ses caresses. Il se hâta de réprimer, de la meilleure grâce possible, ces petites familiarités qu'il était juste d'imputer plutôt à la bouteille qu'à un écart de tempérament de Madame Silderscoo, et protesta qu'il avait voulu plaisanter. Pour lui prouver qu'il était toujours disposé à lui rendre service, il se déclara prêt à examiner les actes à l'instant même, si c'était le moyen de donner satisfaction et consolidation aux inquiétudes de sa belle amie.
« Puisque vous voilà levée, ma Cildur, brailla Squeers, mettez donc le verrou à la porte pour que nous ne soyons pas dérangés. »
Peg se mit à trotter vers la porte, poussa le verrou, se traîna au bout de sa chambre et tira de derrière le charbon de terre qui remplissait le bas de son buffet une petite boîte de bois blanc. Elle le mit sur le carreau au pied de Squeers, alla chercher sous son oreiller une petite clé avec laquelle elle lui fit signe d'ouvrir la caisse. Monsieur Squeers, qui n'avait pas perdu un seul de ses mouvements, s'empressa de le faire et, relevant le couvercle, plongea ses yeux ravis sur les documents dont elle était pleine.
« À présent, vous voyez ?»
dit Peg, se mettant à genoux sur le carreau près de lui et arrêtant un moment la main impatiente de l'homme de loi prétendu.
« Tout ce qui ne peut pas servir, nous allons le jeter au feu. Tout ce qui peut nous rapporter de l'argent, nous le garderons. Et s'il y a quelques papiers qui puissent nous aider à le mettre en peine, à lui torturer le cœur, à le mettre en lambeaux, cela, nous les trierons avec un soin particulier. Car c'est là ce que je veux. C'est là ce que j'ai espéré faire quand je lui ai faussé compagnie.
« Je savais bien, dit Squeers, que vous ne l'aimiez pas autrement. » Mais je m'étonne que vous ne lui ayez pas emporté de l'argent pendant que vous y étiez.
« Emporté quoi ?»«
De l'argent !» hurla Squeers. « Ma parole, je crois qu'elle m'entend bien, mais qu'elle a juré de me rompre un vaisseau dans la poitrine pour avoir le plaisir de me voir soigner après comme garde-malade. »« De l'argent, Cildur, de l'argent !»«
La belle question !» cria Peg avec un air de mépris. « Si j'avais pris de l'argent à Arthur Greed, il aurait remué ciel et terre pour me trouver. Il aurait flairé son cher argent. Il l'aurait déterré au bout du monde. Non, non, pas si bête. Je lui ai pris ses secrets et je savais bien qu'il ne voulait pas les rendre publics quand ils vaudraient leur pesant d'or. C'est un vieux renard, un vieux roué, un vieux sans cœur. Il a commencé par me laisser mourir de faim et finit par m'attraper. Aussi, si je le pouvais, je le tuerais sans pitié, comme un chien.
Très bien, bravo, dit Squeers. Mais d'abord, Cildur, jetez la boîte au feu. Il ne faut jamais garder les choses qu'ils puissent vous compromettre. Retenez bien ce point-ci. Pendant que vous allez la mettre au carreau, ce qui ne vous sera pas difficile, car elle est vieille et pourrie, pour la faire brûler en détail, moi, je vais faire l'inventaire des papiers pour vous dire ce que c'est. » Peg ayant accepté cet arrangement, Monsieur Squeers retourna la boîte sans dessus-dessous et renversa le contenu sur le carreau et la lui passa. Il comptait sur l'intention de la vieille occupée à la faire brûler, dans le cas où il serait bon de la distraire pour lui dissimuler la soustraction de quelques pièces à sa convenance. « Là !» dit Squeers. « Vous poussez les morceaux avec les pincettes entre les barreaux de la grille, vous en faites flamber le feu, et moi, pendant ce temps-là, je vais lire. Voyons !» En parlant ainsi, il posa à terre la chandelle auprès de lui vivement, avec une grimace satanique, et procéda à l'examen. Si la bonne femme n'avait pas été sourde comme un pot, elle n'aurait pas manqué d'entendre, quand elle était allée à la porte, la respiration haletante de deux personnes cachées derrière. Et, à moins d'être bien renseignée sur son infirmité, ces deux personnes n'auraient rien eu alors de plus pressé que d'entrer sur le champ ou de détaler au plus vite. Mais comme elles savaient à qui elles avaient affaire, elles restèrent coites à la porte, sans qu'on s'en aperçût, puis, trouvant que le verrou n'était pas fermé, parce qu'ils n'avaient pas de gâche, elles entrèrent avec précaution et s'avancèrent à pas de loup dans la chambre. Pendant qu'elles se glissaient petit à petit sur la pointe des pieds en retenant leur respiration, Squeers et la vieille sorcière, qui ne s'attendaient pas qu'ils eussent quelqu'un sur leurs talons, s'occupaient tranquillement de leur petite affaire. La vieille, tournant sa face ridée tout près des barreaux de la grille de l'âtre, et gonflant ses joues pour souffler dans les cendres et faire prendre le feu, Squeers se baissant pour lire à la chandelle qui mettait en relief toute son horrible figure, comme la lueur du feu faisait valoir celle de sa compagne, tous deux, absorbés dans leur emploi et rayonnant d'une joie qui contrastait singulièrement avec l'air d'anxiété des nouveaux venus qui profitaient par derrière du plus léger bruit fait par les autres pour avancer un pas et s'arrêter tout à coup quand le bruit avait cessé, ajoutez à cela la grande chambre nue et sombre, les murs humides, la lueur douteuse et vacillante de la chandelle, et vous aurez une scène capable d'intéresser le spectateur le plus froid et le plus indifférent. Une scène à rester longtemps gravé dans la mémoire. Ces visiteurs clandestins, c'était M. Frank Cheeryble d'une part et Newman Nudge de l'autre. Newman avait empoigné par son bout rouillé un vieux soufflet et lui faisait décrire au-dessus de sa tête une courbe élégante avant de le faire descendre sur celle de M. Squeers, lorsque Frank lui arrêta le bras d'un air sérieux et faisant un pas de plus en avant, s'approcha si près du maître de pension par derrière qu'en se penchant un peu par-dessus son épaule, il pouvait lire sur lui les papiers qu'il tenait à la main. Monsieur Squeers, qui n'était pas autrement érudit, parut terriblement embarrassé de comprendre sa première prise. Un acte écrit en gros et qui n'en était pas plus lisible, à moins d'un œil exercé. Il essaya de le lire d'abord de gauche à droite, puis de droite à gauche, toujours avec le même succès, puis à l'envers, sans en être plus avancé. Dit en riant Marguerite, à genoux devant le feu qu'elle nourrissait des débris de la cassette, et faisant dans l'ivresse de sa joie des grimaces de possédé.
Qu'est-ce qu'il y a donc d'écrit là, hein?
Rien de particulier, répliqua Squeers en lui poussant du pied le grimoire. « Ce n'est qu'un vieux bail, à ce que je peux croire. Jetez-le au feu !» Madame Silderscrew fit comme il avait dit, en demandant ce que signifiait le second. « Celui-ci, » dit Squeers, « c'est une liasse de reconnaissance et de billets à échéance renouvelés par 6 ou 8 gentlemen. Mais comme ce sont tous des maîtres de parlement, cela n'est bon à rien. Jetez-les aussi au feu !» Même obéissance de Marguerite, même question sur le suivant. « Celui-ci, » dit Squeers, à l'air d'un contrat de vente du droit de présentation à la cure de Purchurch, dans la vallée de Cashup. Soignez celui-là, Sildur, au nom du ciel, ne l'égarez pas. Il nous rapportera gros aux prochaines enchères.
Et l'autre après ?
Demanda Peg. Mais, dit Squeers, celui-là m'a l'air d'être l'obligation d'un curé de campagne de donner 1 000 francs sur son traitement pour en emprunter 500. Soignez aussi celui-là, car s'il ne le paie pas, nous aurons bientôt mis l'évêque à ses trousses. Nous ne sommes pas sans savoir ce que veut dire la parabole du tour d'aiguille et du chameau. Il faut, bon gré mal gré, qu'un prêtre vive de son revenu, si maigre qu'il soit. S'il veut monter au ciel, il n'y a pas à dire. C'est drôle, mais c'est comme ça.
« Qu'est-ce que vous voyez là ?»
dit Peg. « Oh, rien !» répliqua Squeers. « Je regardais seulement. » Newman, le fougueux Newman, levait encore le bras armé du soufflet. Mais Frank, par un geste rapide, le lui retint encore, sans faire de bruit. « Tenez !» dit Squeers. « Des billets, gardez-moi cela. Une cédule de procureur, cela aussi. Deux garanties, ayez-en soin. Résiliation de bail, au feu. Ah, Madeleine Bray. À l'époque de son mariage ou de sa majorité, ladite Madeleine. Tenez, brûlez ça. Mais il se garda bien de le passer à la vieille. Il lui subsista un vieux parchemin qu'il tenait exprès d'avance à la main, et pendant qu'elle avait le dos tourné, il fourra dans la poche de côté de sa grande houppelande le titre dont l'intitulé avait frappé sa vue, et il poussa un cri de triomphe. « Je le tiens! Je le tiens! Hurrah! Le plan est bon, malgré les chances contraires, et nous y voilà enfin !» Peg demanda ce qu'il avait à rire, mais sans obtenir de réponse. Il fut impossible de retenir plus longtemps le bras de Newman. Le soufflet descendant de tout son poids sous la main vigoureuse de Nudge sur le crâne de Monsieur Squeers. Il le renversa sur le carreau et l'étendit de tout son long, privé de sentiments.